Alors, frères et sœurs, nous allons commencer par la grâce de Dieu à étudier, ou plutôt à voir sous forme de prédication par exposition, l'épître aux Éphésiens. Et je vous invite à tourner dans vos Bibles et nous allons lire les trois premiers versets ce matin. Je ne sais pas jusqu'où nous pourrons aller parce que déjà le temps est bien avancé. Mais en Éphésiens chapitre 1 et versets 1 à 3, nous lisons « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Alors, John MacArthur, dans son commentaire aux Éphésiens, raconte deux anecdotes qui sont deux histoires vraies qui se sont passées aux États-Unis. La première, c'est l'histoire d'un couple qui est relativement âgé, mais qui meurt, et on se demande pourquoi. Donc, une autopsie se fait, et finalement, on découvre qu'ils sont morts de malnutrition. Manque de nourriture et de bonne nourriture. Jusqu'à ce qu'on découvre que sous le matelas de leur lit, il y avait dans une poche en plastique, plutôt style poubelle, 40 000 dollars. Et ça se passait dans les années 1900. On peut monter un petit peu pour moi. Excuse-moi, Stéphane, merci. Et une autre anecdote d'une dame qui s'appelait Etty Green, qui est morte en 1916. Et cette pauvre femme, vous allez pourquoi comprendre je dis ça, elle était tellement soucieuse de ne pas dépenser qu'elle mangeait le gruau. Vous savez ce que c'est le gruau ? Elle mangeait le gruau froid, à l'eau froide, pour économiser l'énergie de chauffer l'eau pour pas justement dépenser du gaz. Or, il se trouve que cette femme avait un fils qu'elle a beaucoup négligé, qui tombait malade, et pour pas payer, aller à la clinique, eh bien, elle a attendu, au point que quand elle l'a amené en clinique, il a fallu lui amputer une jambe. Elle est morte en 1916, et sur son compte en banque, il y avait 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Alors, l'illustration n'est pas là pour montrer la terrible attitude qu'est l'avarice, mais pour montrer parfois que des gens vivent comme s'ils étaient pauvres alors qu'ils sont riches. Et l'Épître aux Éphésiens a pour but de nous enseigner que nous, croyants, nous sommes riches. Et pourtant, parfois les enfants de Dieu vivent une vie chrétienne pauvre. Ils sont riches et ils vivent pauvrement. Ils ont un compte en banque spirituelle extraordinaire, mais ils vivent comme s'ils étaient les plus misérables de la terre. Comment se fait-il ? Certainement, c'est un manque de foi. Alors, l'Épître s'adresse à des croyants qui agissent un petit peu de la même manière. Ils sont riches, ils ne le savent peut-être pas à combien ils sont riches, et ils vivent comme s'ils étaient des pauvres. Et Paul, ici, veut nous montrer dans l'Épître aux Éphésiens ce que les croyants possèdent et aussi comment ils peuvent s'enrichir spirituellement parce que Christ leur a donné. Alors, je vais donner cette illustration suivante qui m'est venue à l'esprit en introduction à l'Épître aux Éphésiens. Imaginez que vous vous promenez dans une vallée magnifique où vous voyez des montagnes. Alors j'ai une image, je suis allé en Suisse, j'ai une image, une vallée avec des montagnes, Ligur, le Jungfrau et le Mönch, et effectivement il y a une vallée extraordinaire là, et puis que vous rêviez d'aller sur le sommet pour voir la vue panoramique. Mais quand vous contemplez les montagnes et que vous regardez le chemin à parcourir, vous dites « Oh, mais pour moi c'est impossible ». Je ne vais pas arriver à aller sur le pic de ces montagnes et je ne pourrai pas jouir de la vue extraordinaire, panoramique qu'il doit y avoir. Et juste à ce moment-là, vous avez un hélicoptère qui arrive et qui vous invite à entrer, prendre place et qui, par un effet évidemment très rapide d'élévation, vous amène sur le sommet de la montagne. Et là, vous regardez les montagnes, vous regardez la vallée où vous étiez, où il vous semblait impossible de gravir la montagne pour voir le pic et finalement cette magnifique vue. Et vous redescendez dans la vallée, mais vous n'oublierez jamais cette vue parce qu'elle est si extraordinaire. Voyez-vous, c'est un peu la même chose avec le croyant. L'Épître aux Éphésiens veut nous amener dans des sommets spirituels pour nous montrer la beauté de Jésus-Christ. Et une fois qu'on a vu cette splendeur des richesses spirituelles de Dieu en Christ, même si on redescend dans la vallée où on marche parfois avec difficulté, on n'oublie jamais cette vue si extraordinaire, céleste, de ce que nous sommes en Christ. Le croyant est un citoyen du ciel, mais un étranger et voyageur sur la terre. Mais la Bible dit que le jour où nous sommes sauvés, nous sommes placés en Christ, dans les lieux célestes, nous y reviendrons. Alors, juste une brève introduction à l'Épître aux Éphésiens, parce que bon, je pense que c'est faire justice à l'Épître pour parler un petit peu de cette épître. Eh bien, l'auteur, c'est l'apôtre Paul, il est plusieurs fois mentionné dans l'Épître aux Éphésiens, il a réellement écrit cette lettre parce qu'il est le fondateur de l'Église. Il a fait un premier voyage, il a laissé ses compagnons, il est revenu, appelé par Dieu à implanter cette Église, il est resté 3 ans là, et l'Église s'est développée, et l'Église est devenue un phare sur toute l'Asie mineure. C'est merveilleux quand Dieu suscite une église qui devient une église modèle et qui est en bénédiction pour les autres églises. La richesse spirituelle d'une église, alors bien sûr, on aimerait que l'on soit plus nombreux, mais j'allais dire, ce n'est pas particulièrement le nombre. Mais c'est certainement l'église de qualité, une église qui est le reflet de ce que chacun vit avec le Seigneur. C'est ça qui est important. Une fois qu'on est sauvé, Dieu veut que l'on devienne des modèles. À l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit l'Épître aux Éphésiens, vraisemblablement était à Rome prisonnier. Plusieurs fois, dans l'Épître aux Éphésiens notamment, il se dit « le prisonnier de Christ pour vous païens, le prisonnier dans le Seigneur, et puis l'ambassadeur de Christ dans les chaînes ». L'apôtre Paul est en train d'écrire la parole de Dieu alors qu'il est lié. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu est déliée sous l'écriture de l'apôtre Paul parce qu'il a en révélation des choses extraordinaires. Il a en révélation que le croyant est dans une position extraordinaire. Il a la révélation de l'Église. Et puis, il a la révélation de ce que devrait être la marche de la vie chrétienne. Alors, dans les 3 premiers chapitres, on a la théorie, la théologie, et puis dans les 3 derniers, 4, 5, 6, on a la conduite chrétienne qui est la pratique, la mise en pratique des 3 premiers chapitres. Mais l'apôtre Paul est un modèle, il souffrait. Mais malgré ses souffrances, la parole se déliait parce qu'il l'écrivait sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais aussi il avait du zèle pour parler du Seigneur. Et les gens qui l'entouraient à Rome ont été bénis en écoutant le témoignage de l'apôtre Paul. Alors, je ne veux pas m'étendre trop, parce que ça pourrait faire l'objet d'études, même, et très intéressant d'ailleurs, sur l'Épître aux Éphésiens, mais retenons ceci, c'est qu'il y a 5 fois le mot « richesse », 12 fois le mot « grâce », il y a l'idée de plénitude, de remplir, de remplir 6 fois, mais il y a une expression clé, qui est le mot-clé de l'Épître, qui est « en Christ » et qui se trouve 16 fois. En Christ, en lui, n'est-ce pas? Ça se trouve 16 fois. J'aimerais vous laisser une question ce matin. êtes-vous en Christ ? Si vous deviez mourir aujourd'hui, et je ne vous le souhaite pas, mais si vous deviez mourir et vous tenir dans la présence de Dieu, pour quelle raison est-ce que Dieu vous laisserait-il entrer au ciel ? Eh bien, la Bible dit qu'il n'y a qu'une seule entrée possible au ciel, qu'un seul moyen, c'est la personne de Christ. Mais êtes-vous sûr ce matin d'être en Christ ? Parce que si vous n'êtes pas en Christ, où êtes-vous ? Parce que le salut se trouve en Christ. Alors, nous allons regarder ensemble les deux premiers versets. Je vais dépasser peut-être un petit peu l'heure, mais vous m'en pardonnerez, j'espère, cette prolongation. Mais cette épître est d'une telle beauté, et j'aimerais vous dire ce qu'a dit quelqu'un au sujet des épîtres, qui résume bien un petit peu le sens des épîtres dans le Nouveau Testament. En Romains, nous sommes justifiés, en Corinthiens, nous sommes sanctifiés, en Galates, nous sommes affranchis, en Éphésiens, nous sommes ressuscités, en Philippiens, nous sommes satisfaits, en Colossiens, nous sommes remplis, et en Thessaloniciens, nous sommes glorifiés. Alors, chaque épître inspiré par Dieu, sous l'autorité apostolique de l'apôtre Paul, est un enseignement pour nous, évidemment, les enfants de Dieu. Nous lisons donc le texte sans plus tarder pour développer, n'est-ce pas, ce que l'apôtre Paul veut nous dire dans les premiers versets. Il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu ». Paul ne s'est pas, ordonné ou pris de lui-même une autorité spirituelle. Ici, c'est l'apostolos, l'envoyé de Jésus-Christ. Il est ce qu'il est à cause de Jésus-Christ, il est écrit à cause de la volonté de Dieu. Il n'y a aucune autorité spirituelle qui ne soit donnée par Dieu lui-même, qui soit réelle. Ah, il y a des gens qui prennent des autorités et qui prennent autorité, une autorité religieuse, mais est-ce qu'elle est réellement de Dieu ? Lui, l'apôtre Paul, alors qu'il s'appelle le premier des pécheurs et le plus grand des pécheurs, s'il y a autorité dans sa vie, c'est parce que c'est Jésus-Christ qui lui a donné et c'est Dieu qui lui a donné. Ici, il y a une double appellation des croyants. Si vous avez regardé le texte avec moi, il est question des saints et des fidèles. Et saint, ça veut dire mis à part, c'est-à-dire que le croyant qui a reçu le Saint-Esprit est mis à part pour Dieu. Il est mis à part du péché, séparé du péché, et il est mis à part pour Dieu pour le servir. Et ici, il est écrit qu'il est aussi un fidèle. Pistos, qui vient du mot grec pistis, qu'est la foi. Un homme est fidèle devant Dieu parce qu'il a la foi. Il est impossible d'être fidèle à Dieu sans la foi. Les deux vont de pair, la foi et la fidélité. Et aussi, il y a une double bénédiction dans le verset 2, la grâce et la paix. La grâce, c'est le charis. Alors on est tous, peut-être vous allez bondir de votre chaise, on est tous des charismatiques. Si on a goûté à la grâce de Dieu, c'est le vrai sens du mot charis, c'est la grâce, c'est merveilleux. Que la grâce et la paix, Irénée, qui a donné le mot français, le prénom Irène, que la grâce et la paix vous soient données. Est-ce que vraiment vous connaissez cette grâce ? Et est-ce que vous y demeurez ? Est-ce que vous avez la paix de Dieu, comme dit l'Épître aux Romains, et est-ce que vous avez la paix avec Dieu ? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dit la Bible. C'est ça qui communique la paix de Dieu. Lorsqu'on est pardonné, on a non seulement la paix avec Dieu, parce qu'on est purifié, on est justifié devant Dieu, mais on a aussi la paix de Dieu qui remplit notre cœur. Et cela vient de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est intéressant ici dans le texte, c'est que le mot « et », la conjonction « et », a le sens d'être synonyme. Autant Dieu est le Père, écoutez-moi bien, que Jésus-Christ est divin. Dieu est notre Père et Jésus-Christ est notre Seigneur, il est notre Dieu. Et nous arrivons à ce verset extraordinaire de l'Épître aux Éphésiens, « Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que fait le croyant le jour où il accepte le Seigneur? Il commence à bénir Dieu. Dans ce monde, on a souvent des gens qui blasphèment Dieu, qui maudissent même Dieu, qui se révoltent contre Dieu. Mais le véritable croyant, il bénit Dieu, en qui il a tout pleinement. Il le reconnaît comme un père, il entre dans une intimité de vie où il dit, par le Saint-Esprit qui lui a été donné, « Abba, Père ». Il est dans une relation d'amour. Il n'est pas possible de louer Dieu si on ne connaît pas Dieu. Si on n'a pas goûté à sa présence, si on n'a pas goûté à sa paix, à sa joie, à son amour, à son pardon. Mais ce matin, bien-aimé, avez-vous loué Dieu? Avez-vous loué Dieu que vous avez eu un bon petit déjeuner? J'en suis sûr. Hein? Avez-vous loué Dieu que peut-être vous êtes venu en voiture, vous avez une maison, un toit, la santé? Louez Dieu pour la santé. Avez-vous loué Dieu durant la semaine pour ses bienfaits? Avez-vous eu les yeux ouverts pour voir les bienfaits de Dieu? Ou est-ce que, comme le peuple d'Israël, dans le désert, avez-vous murmuré? Et vous savez que le murmure, c'est en fait une plainte contre Dieu lui-même. Ou est-ce que vous êtes réjoui parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Si Dieu est votre Père, il est au contrôle de tout ce qui vous arrive. Et il vous aime. Et parce qu'il vous aime, vos cœurs sont remplis de bénédictions envers lui. Celui qui nous bénit, nous le bénissons. C'est le bénisseur qui est béni. Et c'est pareil dans la vie chrétienne. C'est dans la mesure où je suis béni que je suis en bénédiction pour les autres. Et parce que Dieu nous bénit, alors nous crions dans nos cœurs, « Béni sois-tu, ô Dieu !» Et le jour où le chrétien cesse de bénir son Dieu, alors on peut dire qu'il est en panne. On peut louer sa voiture ou avoir une voiture tant qu'elle roule, mais quand elle tombe en panne, que le moteur ne marche plus ou qu'il y a, comme on dit au Québec, hein, un flat au tailleur et la voiture se trouve en panne, oh, on n'est pas content. Eh bien, avec Dieu, ça va être différent. On peut toujours les Dieu, il ne change pas. Il n'est jamais en panne. C'est nous qui sommes en panne de faillir dans notre louange envers notre Dieu. Alors, il y aurait des passages parallèles, mais je vais essayer d'arriver, j'espère, à la fin du message ce matin. Est-ce que vous bénissez Dieu? Est-ce que vous avez une vie joyeuse où la place de la louange est là? Et les gens vous voient le dimanche matin et en semaine, ils sont prêts à prendre un petit peu un gobelet, si je peux m'exprimer ainsi, pour recevoir une bénédiction de votre part. Êtes-vous en bénédiction envers les autres? Est-ce que les autres ont plaisir d'être en votre compagnie parce qu'ils voient la bénédiction de Dieu dans votre vie? Béni soit Dieu. Et je vous donne le verset parce que je crois qu'il est approprié. En Hébreux chapitre 13, verset 15, il est écrit « Par lui, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Quand le croyant a le mot « Seigneur » dans sa bouche, c'est bon signe. Quand il loue son Dieu et que le mot « Seigneur » est dans sa bouche, c'est parce que le Seigneur est proche de lui. Mais quand un croyant n'a plus le mot « Seigneur » dans ses conversations, alors bien sûr, il ne faut pas prendre le nom du Seigneur en vain, il est peut-être en panne et doit peut-être apprendre à nouveau à louer le Seigneur parce qu'il y a une victoire et une délivrance dans la puissance de la louange. C'est voir Dieu comme il est. Et le diable, et c'est souvent par rapport à ce pic que nous voulons atteindre, de mettre des nuages, n'est-ce pas? Et d'essayer de nous empêcher de voir cette vue panoramique extraordinaire, alors que Dieu nous a placés sur ces sommets spirituels, bénis par lui, parce que nous sommes devenus ses enfants. Et si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, vous êtes l'objet de la bénédiction de Dieu. C'est extraordinaire, cela. Vous n'avez pas besoin, une autre bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de chercher la bénédiction. Comment ça? Non, elle vous est déjà donnée. On va y venir dans un instant. Alors, peut-être dois-je apprendre à donner la structure de mon message. Vous savez, mes messages sont bien organisés, mais peut-être que vous avez besoin ce matin ou d'autres occasions, je ferai plus attention de donner les points. Alors, les points de ce message ce matin, Dieu est Père, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'origine de la bénédiction qui nous a bénis, le nous, les bénéficiaires de la bénédiction, nous a bénis, temps passé, le temps de la bénédiction, toutes sortes de bénédictions, la mesure de bénédiction, des bénédictions spirituelles, alors c'est la nature des bénédictions, dans les lieux célestes, l'endroit de la bénédiction et en Christ, l'instrument de la bénédiction. Vous croyez qu'on aura le temps de voir tout ça ce matin? Ah là là, je me souviens quand j'ai prêché à Montréal dans une église haïtienne, qu'est-ce que j'ai aimé ça, le pasteur m'a dit, tu peux prêcher aussi longtemps que tu veux. Et j'ai prêché 1h30, le culte a commencé à 9h du matin et s'est terminé à 2h l'après-midi. Mais quel temps béni! Êtes-vous prêt à être béni là ce matin? J'espère. Alors, on va commencer, on verra comment le Seigneur dirige, question de temps. Mais ne ratons pas la bénédiction de Dieu. Hein, vous avez compris le sens du message. Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça me fait penser, et je vous le lis pour gagner un peu de temps, en Jacques, l'épître de Jacques. Jacques dit ceci à propos de Dieu, Jacques 1, verset 17. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Avec le Seigneur au ciel, beau temps fixe. Hein? Ce n'est pas comme en montagne, parfois le climat change vite, mais avec Dieu, cette vue céleste ne change pas, parce qu'il est Dieu. Et la source de bénédiction n'est jamais tarie. Vous pensez que Dieu ne peut pas vous bénir? Ah, détrompez-vous. C'est au moment peut-être où vous y pensez le moins que Dieu peut faire le plus pour vous. C'est quand parfois on réalise qu'on n'est rien, que Dieu commence à bénir vraiment nos vies, parce que pour que nous lui donnons toute la gloire, nous devons apprendre que tout vient de lui. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il n'y a que lui, et regardons bien cela ensemble, il n'y a que lui qui apporte la bénédiction. Venez à l'église. Est-ce que de venir à l'église peut vous assurer la bénédiction de Dieu? Non. Venir à l'église vous assure la bénédiction de Dieu si vous êtes béni de Dieu. Si vous connaissez Dieu et si vous marchez avec lui. Attendez là, je suis quand même le pasteur de l'église, je voudrais dire que venez quand même à l'église, hein, on se comprend. Mais la bénédiction de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui peut vous bénir. Oh, des frères et sœurs, des amis peuvent être en bénédiction pour vous. Mais la vraie bénédiction, elle vient de Dieu, qui est notre Père. Moi, je commence à prendre de l'âge un petit peu. Vous avez remarqué, non? Eh bien, j'ai remarqué une chose en tout cas, c'est que plus on vieillit, plus on réalise combien on a du mal à prendre conscience de l'étendue de l'amour du Père. Et c'est comme si on se plongeait, n'est-ce pas, au bord d'un océan, alors qu'il y a encore des milliards de mètres cubes qui restent devant vous. L'amour du Père, c'est extraordinaire. Prenez le temps de plonger votre cœur dans le cœur de Dieu et de vous noyer dans son amour, et vous allez être assuré que Dieu a de riches bénédictions. Tout vient de lui. Vous êtes béni, si vous êtes béni dans votre cœur, louez le Seigneur, parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu vous a béni dans votre cœur, dans les moments difficiles où le tunnel semble long, étroit, et en pénombre, sachez que si Dieu vous bénit, il y aura une sortie du tunnel. Regardez à Dieu, fixez vos yeux sur la lumière, ne regardez pas aux circonstances, parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Celui-là même qui a commencé à vous bénir, mais il va continuer à vous bénir. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu n'agit pas avec des sautes d'humeur, mais il agit de façon constante. C'est merveilleux cela. Et si on regarde au premier chapitre et dans les premiers versets, Au verset 5, alors je vous le lis, il est question de son amour. Autrement dit, la bénédiction vient d'une personne et tout est centré sur cette personne qui est Dieu lui-même. C'est pour ça qu'au chapitre 1, lorsqu'il est question de toutes les bénédictions, notamment que Paul commence à développer, il est question par exemple de son amour, de sa volonté, de sa grâce, de son bienveillant dessein, de sa gloire, de sa connaissance, de son appel, de son héritage, de sa puissance et de sa droite. C'est quand nous prenons le temps d'être avec Dieu que nous le connaissons et que nous pouvons le bénir. C'est celui qui nous bénit et c'est celui que nous bénissons. Il nous a bénis. Nous sommes les bénéficiaires de la bénédiction. Maintenant, juste encore une petite remarque. Êtes-vous vraiment bénéficiaire de la bénédiction de Dieu? Parce que pour être béni, il faut avoir Dieu comme Père. Et s'il y avait quelqu'un ici ce matin qui n'a pas encore Dieu comme Père, sachez que lui veut vous accueillir comme une créature de Dieu pour que vous deveniez son enfant. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu, nous sommes des créatures de Dieu. Mais le jour où on l'accepte, où on va vers lui, il fait de nous ses enfants. Ainsi, l'enfant de Dieu, il est certes citoyen sur la terre, mais plutôt étranger et voyageur, mais sa patrie devient le ciel. Il préfère goûter au ciel qu'aux choses terrestres. Une heure dans ta présence, disait le psalmiste, vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Le jour où, à genoux, au pied de mon lit, un jour dans ma chambre, en tant qu'étudiant, j'ai dit, Seigneur, pardonne, purifie-moi, sauve-moi, et que la paix est entrée dans mon cœur, je peux vous dire que c'est en cet instant présent, toutes les autres choses ont pâli. Devant Dieu, terres et cieux, faites silence. Parce que quand vous connaissez Dieu, vous le rencontrez, il vous émerge de sa paix, de son amour, et c'est une bénédiction qui commence pour toute la vie. J'aimerais, et je vais terminer avec cela, j'aimerais vous faire souligner que le temps ici est au passé, il nous a bénis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pourquoi le souligner? C'est parce que le temps ici, dans le grec, est un temps dit aoriste. C'est un temps qui reflète une action passée, écoutez-moi bien, ponctuel, mais qui a des conséquences dans le présent. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Vous n'avez pas remarqué parfois que nous, les enfants de Dieu, nous nous comportons comme si nous devions arracher du ciel la bénédiction de Dieu. Mais ce n'est pas du tout ce que Dieu veut nous enseigner. Dieu dit que déjà il nous a bénis en son Fils, que déjà c'est fait il y a longtemps dans les cieux. Dieu avait décidé en son Fils de bénir ses élus. Et il les a déjà bénis, c'est déjà fait. Et donc c'est un acte que Dieu a déjà accompli, dont les effets se font dans le présent. Donc quelle est notre responsabilité? Mais elle est toute simple, c'est de ne pas essayer d'avoir la bénédiction de Dieu, c'est tout simplement de croire que Dieu déjà nous a bénis, et d'entrer dans sa bénédiction. Voyez-vous la différence? Vous avez besoin de bénédiction dans votre vie, de bénédiction sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Allez vers la source. Elle n'est jamais tarie. Et si vous réalisez que déjà Dieu vous bénit, entrez dans cette bénédiction. Il y a un homme qui vivait aux États-Unis, relativement pauvre, c'est une histoire qui m'est revenue à l'esprit, une anecdote, et qui a hérité d'un cousin éloigné d'Angleterre. Vous savez, l'Angleterre a fait ses petits hein, aux États-Unis, et tout le monde rêve d'avoir un cousin d'Amérique qui soit riche, duquel on peut hériter. Et là, c'était l'inverse. C'était un Américain qui a hérité d'un richissime Anglais, un monsieur éloigné qui ne connaissait plus finalement, mais il a été recherché. Et voilà, on lui a dit, vous allez hériter d'une fortune. Ah bon ? Et un jour, il s'est présenté en Angleterre, justement, pour aller chercher cette fortune. Et un journaliste s'est précipité. « Monsieur, que venez-vous faire en Angleterre ?»« Je viens prendre possession de mon héritage. » Eh bien, devant le diable, malgré notre nature pécheresse, on peut venir à Dieu à cause du sang de Jésus-Christ et dire « Seigneur, je viens hériter de mon héritage, j'en prends possession parce que déjà tu l'as donné et je veux en jouir pleinement parce que je suis béni de la part de mon Père qui a fait de moi son enfant et j'ai tout pleinement en toi. Alors je viens et je réclame et je prends possession par la foi, de même que Josué. » D'ailleurs, il y a un parallèle entre l'épître aux Éphésiens et le livre de Josué. Josué a traversé le Jourdain, c'est le symbole de notre baptême en Jésus-Christ. Et Josué est entré dans le pays promis pour faire la conquête du pays par la foi. C'était la clé de la victoire. Et de même que Dieu avait donné déjà à Josué le pays promis qui appartenait à Israël, parce que Dieu l'avait déclaré ce pays comme étant la possession d'Israël, mais il devait en avoir l'héritage. Nous aussi, nous sommes bénis spirituellement, mais dans ce combat spirituel, la vie spirituelle face au diable, face à notre nature, face au monde, nous sommes déjà héritiers de toutes sortes de bénédictions dans lesquelles nous devons entrer. Avez-vous été invité à manger cette semaine? Ou avez-vous été invité déjà à aller au restaurant avec un ami? Et vous ne vous êtes pas posé la question, comment aller faire la cuisine? Comment aller mettre la table? Comment on allait choisir le dessert? Vous vous êtes installé, le banquet étant préparé, et vous avez été comblé. C'est la même chose avec Dieu. Le banquet de Dieu est là, il vous invite, seulement à table, il y a des chaises vides. Il voudrait que tout le monde soit assis, que tout le monde profite du banquet, mais il y a des chaises vides parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi de venir à son banquet. Alors que tout est là, tout est accompli. Êtes-vous de ceux qui sont bénis de l'Éternel? Avez-vous déjà été invité au banquet et vous y êtes-vous présenté? Et si ce matin, il y avait quelqu'un encore qui ne connaît pas Dieu, mais qui voudrait être béni de Dieu parce que gracié, hein, on est béni parce que gracié, pardonné, alors la porte vous est ouverte. Ou plutôt, vous devrez vous ouvrir la porte de votre cœur. Et la Bible dit, Jésus-Christ a dit, voici, je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre. La poignée de votre côté, c'est à vous à ouvrir. Et le Seigneur va entrer et va vous bénir. On peut se réjouir, frères et sœurs, de connaître le Seigneur. Et si, en effet, quelqu'un, pour terminer, quelqu'un ne connaît pas encore ce merveilleux Sauveur et cette bénédiction de Dieu le Père, alors sans plus tarder, adressez-vous à Dieu et ayez foi en lui, approchez-vous de lui. Prions s'il vous plaît. Notre Père, nous te remercions d'avoir prévu toutes sortes de bénédictions pour chacun de tes enfants. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu es avec nous. Nous te remercions de tes richesses spirituelles, éternelles, qui vont durer pour toujours. Et nous nous inclinons devant toi. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Amen.